Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Hier soir, le Seigneur vraiment nous a conduit, nous a parlé sur l'importance de nous renouveler dans l'esprit de service. Alléluia. Et Jésus posait cette question à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu ? Est-ce que vous aimez le Seigneur aujourd'hui ? Amen. Et on n'aimerait pas lui dire au Seigneur, non, on va te faire voir, je ne t'aime pas. D'accord ? Seigneur, Pierre, m'aimes-tu ? Lui dit le Seigneur. Et à chaque fois, le Seigneur lui répond, paie mes brebis. Ça veut dire, donne à manger à mes brebis. Et on voyait bien que le Seigneur n'a rien donné à Pierre pour qu'il le fasse. Hein, Christine, m'aimes-tu ? Travaille pour moi. Mais Seigneur, comment vais-je faire ? Comme on dit en français, démerden-sie sich. Hein ? Amen. Hein ? Démerden-sie sich. C'est un peu ça la vraie théologie du Seigneur. Beaucoup de gens attendent de beaucoup de choses, attendent de recevoir les dons, de recevoir l'argent. C'est comme l'offrande. Il y a beaucoup de gens qui donnent l'offrande en fonction de ce qu'ils ont. Alors ils ont eu quelque chose, ils comptent, et puis après ils donnent l'offrande. Ça c'est une manière de donner l'offrande, c'est bien, c'est déjà mieux que de ne pas le donner, mais c'est un peu une manière, c'est un peu de la gaminerie quand même, n'est-ce pas ? Il existe un autre type d'offrande où on donne dans l'espérance de ce qu'on va avoir. Ça c'est un autre type d'offrande. Et donc ça veut dire, Seigneur, je n'ai pas, mais tu m'as dit nourris mes brebis, alors j'investis dans le royaume de Dieu, parce qu'il faut bien acheter la nourriture, il faut bien faire les choses. Et c'est vrai que rentrer dans cette dimension de l'amour qui fait que par la réponse à un cœur charmé à cause du Seigneur, eh bien, on agit d'une manière très différente de ce qu'on aurait agi autrement. Et on voyait hier soir combien le Seigneur a fait un temps de vraiment comme d'encouragement intérieur, de guérison, de délivrance intérieure. J'ai senti quelque chose de très fort quand je priais pour les gens hier soir. J'ai senti quelque chose, c'est la première fois que je sentais ça. J'avais l'impression, vous savez, comme imaginez une femme qui aurait une jolie nuisette, n'est-ce pas ? Vous voyez, juste avant de se coucher, elle a une nuisette très très légère, très c'est pas un gros truc comme ça en laine, vous savez, comme ça qu'il faut faire il faut enlever les quatre épaisseurs avant de pouvoir se coucher. Nadine, tu interprètes, hein ? Tu interprètes. Hier soir, j'avais l'impression que c'est comme si Dieu enlevait de nous comme un léger vêtement, comme cela, et puis qu'il nous remettait comme un vêtement doux, comme ça, et léger. Vous savez, comme un vêtement de soie, comme un vêtement, comme une onction nouvelle, quelque chose de doux, de délicat, de sympa, de bonne humeur, de chatoyant. Et c'est pour ça, à chaque fois, ça me faisait comme des frissons, comme ça. J'avais l'impression que Dieu enlevait peut-être un linceul, enlevait une tristesse, et il remettait quelque chose. Ma femme rigole, elle pense que c'est un message indirect. Mais ça n'était pas le cas. Voilà. En tout cas, c'était beau et je crois que hier le Seigneur nous encourageait à faire attention à trois choses, à l'épuisement spirituel. Beaucoup de gens, quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Vrai ou faux ? Quand on est fatigué, on dit bon, c'est bon, je vais me reposer. C'est le moment de dormir, j'en peux plus. Je me casse, je me barre. Alors qu'en fait, ils reviennent, ils vont dormir, ils sont encore plus fatigués en se levant qu'avant. Parce que dans le Seigneur ne nous dit pas de ne pas servir. Il nous demandera jusqu'à la fin, il nous demandera jusqu'au bout, il nous demandera jusqu'à la fin de nos moyens. Parce qu'il a dit, c'est vous qui devez donner à manger aux brebis. Alors le Seigneur nous invite à faire attention à trois choses. Premièrement, c'est parfois de la manière dont on sert. Est-ce qu'on sert pour quelque chose ? Est-ce qu'on sert pour un objectif, pour obtenir une place, pour obtenir une reconnaissance, pour avoir l'impression d'être bon chrétien ? Ça, c'est une première cause de fatigue spirituelle. La deuxième cause de fatigue spirituelle, c'est vraiment si on sert et qu'on n'arrive pas à se reposer, à se ressourcer dans le Seigneur. C'est-à-dire que souvent, quand on est fatigué, au lieu d'attendre de son mari, au lieu d'attendre de sa femme, au lieu d'attendre du travail, au lieu d'attendre des compliments de quelqu'un, au lieu d'attendre une réussite de quelqu'un, eh bien, il est très important que nous puissions nous ressourcer dans le Seigneur. Et puis aussi une autre chose qui fatigue beaucoup la vie chrétienne, c'est le souvenir de nos fautes. Lorsqu'on n'arrive pas à se pardonner soi-même, lorsqu'on n'arrive pas à avancer soi-même dans la présence de Dieu, lorsque à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on a des culpabilités qui reviennent à cause de nos défauts, à cause de nos incapacités, lorsqu'on se compare aux autres, eh bien je veux dire, c'est inutile, ça ne sert à rien, ce n'est pas la volonté du Seigneur et ça crée la fatigue spirituelle. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez continuer à servir Dieu. Alléluia. Vous allez continuer à servir Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous jusqu'au bout. Et nous devons donc nous renouveler dans nos forces. Alléluia. Seigneur, mes sources sont en toi. Alléluia. J'ai envie de prêcher aujourd'hui, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de m'entendre. Ou alors vous êtes vraiment trop fatigué. Qui est trop fatigué? Levez la main, celui qui sont trop fatigués. Ah, c'est pour ça. Alléluia. Alors on va se ressourcer dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais faire courtement. J'aimerais partager avec vous quelque chose d'important. Je crois que notre Église est une bénédiction du Seigneur. Notre Église est un appel du Seigneur. Hier, on a vu, il y avait beaucoup de monde. Hier soir, les gens étaient bouleversés par le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous vivons un bon culte ce matin. Et ça va changer, ça va évoluer et ça va grandir. Alléluia. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Amen. Est-ce que vous pensez qu'on va gagner cette bataille de Honfleur? Alléluia. Vous savez, on n'a jamais été aussi près de belles victoires dont je vous parlerai bientôt. D'une nouvelle manière de faire l'Église dont je vous parlerai aussi un jour. Je sais que beaucoup de gens aimeraient savoir ce que je fais. Mais je ne faiblis pas. Hein? Amen. Nous continuons dans la présence du Seigneur et bientôt les choses vont se débloquer, notamment cette semaine. J'aimerais vraiment vous demander de beaucoup prier pour cela. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à servir le Seigneur avec sa force. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans sa parole, va avec la force que tu as. Mais quand on n'en a plus, quand on a peur, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, est-ce qu'on a envie de servir Dieu quand c'est comme ça? Parce qu'on se regarde soi-même, on regarde la souffrance qu'on peut avoir, on regarde la terreur qui nous entoure, on regarde parfois les inquiétudes qui sont les nôtres. Et le Seigneur nous dit toujours, va avec la force que tu as. Mais il y a un secret pour être heureux dans la vie chrétienne. C'est justement, même si le Seigneur nous a dit, va avec la force que tu as, c'est essayer d'apprendre, eh bien justement, à travailler avec sa force. Dites avec moi, travailler avec sa force. Travailler avec sa force. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que tout le monde peut en parler, tout le monde essaie de donner des théories sur travailler avec sa force. Mais comment est-ce qu'on devient un serviteur de Dieu, un chrétien qui travaille et qui travaille avec la force du Seigneur plutôt qu'avec la sienne? On va prendre un texte dans la parole de Dieu qui est très très significatif et qui est très beau. Dans Luc au chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, dites avec moi deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Tout le monde dit avec moi, qui était à Simon. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de tous le dire. Qui était à Simon. Nous nous plongeons dans la parole de Dieu. Hein. Nous ne sommes plus en train de penser au poulet rôti, à l'apéritif qui va arriver dans pas très longtemps, n'est-ce pas? Mais nous pensons à la parole de Dieu. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler à Simon, il lui dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans prendre rien. » Mais, bon, ouais, sur ta parole, je jetterai mes filets. Est-ce qu'il l'a dit comme ça? Ben, peut-être. Si Pierre est français, il aurait dit comme ça. Hein? Si Pierre était argentin, il aurait dit, Pierre, nous avons travaillé, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, nous jetterons encore des filets. Comme ça. Je ne sais pas. Hein? Bref, ils firent signe. Alors, attendez, excusez-moi. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient déjà. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Alléluia. Ici, c'est un texte extraordinaire. C'est un texte vraiment qui nous enseigne ce qui est important. Vous savez, Pierre, il avait une barque. La barque, Pierre allait bientôt devenir pasteur. La barque, c'était sa propriété, c'était son outil de travail, n'est-ce pas? Et à quoi ça sert une barque? Ça sert à aller chercher des poissons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des barques qui servent pour des études scientifiques, mais en réalité, normalement, une barque, c'est fait pour aller chercher des poissons. Ici, le Seigneur, eh bien, il aurait pu marcher sur l'eau, on le sait, il est capable de le faire, il aurait pu faire autrement, mais il a trouvé qu'il était important qu'il puisse utiliser la barque de Simon. Alors que Simon avait travaillé toute la nuit avec ses associés, il avait travaillé, il n'avait rien pêché, il arrive, il était en train de réparer un peu ses filets, certainement qu'il avait attrapé des gens, des poissons, mais ils se sont tous échappés, il était vraiment découragé. Et Jésus, lui, il se démonte pas le matin après son culte personnel, il arrive et il trouve que c'est important de pouvoir utiliser la barque de Pierre. Alors il demande à Pierre, « Pierre, est-ce que je peux prendre ta barque ?» Pierre était un peu fatigué, vous imaginez, travailler toute la nuit, comme on l'a vu hier, le Seigneur va encore faire un de ses trucs, parce que lui, dès qu'il commençait, il fallait toujours faire des campagnes d'évangélisation. On était crevés, mais ça y est, c'était reparti. Les disciples avaient très peur de Jésus, parce que partout, dès qu'il faisait quelque chose, ça allait déclencher une montagne de travail pour eux. Et encore une fois, là, eh bien, Pierre, qui était malgré tout fatigué, eh bien, il accepte, bon, parce que Jésus veut l'utiliser. Alors, bien sûr, avec les vents, avec l'écho, c'était plus pratique pour le Seigneur de monter sur la barque et de parler autour de lui. Mais en réalité, il y a ici une leçon qui est très importante, c'est que le Seigneur a décidé de travailler avec Pierre. Le Seigneur a décidé de ne pas faire le travail lui-même. Il a besoin de Pierre. Et même, il va se soumettre même à l'expertise de Pierre. Il va travailler de concert avec Pierre pour pouvoir accomplir son rôle de gagner des poissons et de donner à manger à la foule. Alléluia. Hier, on a vu, si tu m'aimes, donne à manger. Aujourd'hui, bien, le Seigneur nous dit, mais écoute, si tu veux, j'aimerais monter avec toi dans la barque. J'aimerais servir avec toi. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. La barque, c'est le symbole et bien sûr, ça nous rappelle l'Église. N'est-ce pas? Nous rappelle l'Église, nous rappelle peut-être ta vie ou ma vie lorsque le Seigneur a besoin de monter dans cette barque afin de pouvoir avancer plus loin, afin de pouvoir faire un travail, accomplir une pêche bien plus grande que celle que tu ferais par tes propres forces. Alléluia. Il y a ici des choses qui sont très importantes qui sont là. Une barque, c'est fait pour chercher des poissons. Une barque, c'est fait pour la pêche, c'est pas fait pour autre chose. De la même manière qu'une église, c'est fait pour amener des gens au Seigneur. Que ta vie, c'est fait pour servir Dieu. C'est fait pour aller à la pêche. Si tu deviens simplement une barque de décoration sur le port de Deauville, c'est bien, mais ça sert à rien. C'est pas le but de Dieu pour ta vie. Alléluia! Y a-t-il des barques pour le Seigneur ici? Amen! Nous devons souvent débarquer beaucoup de choses de notre vie, débarquer nos inquiétudes, débarquer nos soucis, pour pouvoir embarquer le Seigneur et pour pouvoir embarquer une nouvelle dimension dans ta vie. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Et notre Église, je crois, à l'instar de Pierre, a besoin de se rendre disponible parce que le Seigneur veut partir à la pêche. Alléluia! Le Seigneur va partir à la pêche. Ici, sur le port d'Honfleur, le Seigneur va partir à la pêche. Mais ici, quand même si on sait tous qu'une église, un ministère, c'est fait pour chercher les gens, quand même, là, l'apôtre Pierre, qui est quand même un bon serviteur de Dieu, il faut quand même réaliser qu'il est au début de son ministère, mais il a déjà vécu beaucoup de choses. Juste avant, ils étaient à Capernaum, puis ensuite, ils sont déjà allés en Galilée, ils ont travaillé. Jésus chassait déjà des démons, etc. Ils avaient vu, Pierre avait déjà vu même la guérison de sa propre belle-mère. Il avait dû pardonner le Seigneur d'avoir guéri sa belle-mère. Vous n'êtes jamais posé la question. Si Jésus vient et guérit ta belle-mère, est-ce que tu es content ou tu n'es pas content? Hein, ça dépend, hein, ça dépend. Moi, je suis content avec ma belle-mère. Parce qu'elle me défend toujours. Hein. Alors, le pasteur Pierre avait déjà beaucoup d'expérience. Il avait beaucoup d'expérience. Mais également, c'était un professionnel. C'était un professionnel de la pêche. Et lorsque Jésus s'approche de lui, il va venir vers le Seigneur et Jésus va lui dire, Pierre, on voit la parole de Dieu, il y avait ces deux barques. Jésus arrive et la Bible nous précise que l'une de ces deux barques était à Simon. Il y a ici dans ce texte quelque chose d'important. Quand je lisais ce texte, quand je méditais, je me disais pourquoi est-ce que la parole de Dieu précise-t-elle l'une de ces barques était à Simon. L'une de ces barques était à Simon. Jésus parle à Pierre, mais il lui parle vraiment avec douceur. La Bible dit, c'est bizarre, il le pria de s'éloigner un peu. Alors, on peut tous penser, c'est normal, Jésus était poli, etc. Mais il y avait autre chose dans ce texte. Parce que Pierre lui avait travaillé toute la nuit. Pierre savait qui il était. Pierre savait que c'était un professionnel. Il avait du savoir-faire. Il avait de l'expérience. Il savait les méthodes de la pêche. Et lorsque Jésus vient vers lui et qu'il lui demande de repartir à la pêche au début du matin, eh bien, c'était pas le moment. C'était pas le moment pour aller à la pêche. Quand la pêche était déjà finie depuis des heures, c'est pas quand le soleil est maintenant levé que les poissons arrivent. Parce qu'au contraire, les poissons retombent en eau plus profonde pour aller chercher la fraîcheur. Et Jésus vient le voir alors qu'il avait prévu tout un autre programme. Jésus arrive et certainement ça va bouleverser son programme. Et Pierre, là, on le voit que probablement si Jésus lui prie de cette manière, c'est que j'imagine que quand Jésus a dit « Pierre, est-ce que je peux utiliser ta barque? On va partir en campagne d'évangélisation. » Pierre a dû le regarder et dire « J'ai autre chose à faire. » La Bible le dit, ils étaient en train de réparer leur filet. C'était du travail, ils avaient pêché toute la nuit. Il n'y avait eu que des déceptions. Au moment où ils avaient pensé prendre les poissons, voilà que tout s'est échappé. Déception sur déception. Ils avaient travaillé, ça faisait longtemps. Le business était en péril parce que quand on n'avait pas de résultats financiers, ça posait des problèmes. Et voici que Jésus dit « Laisse tout, maintenant on va retourner au travail. » Alors, Pierre prend Jésus, il arrête de laver ses filets. Et pourtant, c'était important parce que les filets des relations personnelles avec la pêche tumultueuse, le filet des relations humaines entre eux, entre lui et ses associés, entre lui et les gens qui étaient là, c'était rompu. Il y avait eu des difficultés, la tempête qu'ils ont traversée cette nuit-là était forte et véritablement il avait autre chose à faire. Mais Jésus lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, laisse-moi rentrer dans ta barque. Laisse-moi faire d'abord l'œuvre du royaume de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il ne commence pas à aller à la pêche tout de suite, d'abord il enseigne. On aurait pu croire que Jésus, puisqu'il va faire un miracle, il dit on va aller pêcher, n'est-ce pas? Il lui dit on va aller pêcher, eh bien, qu'il va d'abord aller pêcher, mais non, il n'a pas pensé à lui, d'abord il a dit d'abord il enseigne. Alors Jésus enseigne la foule, et puis longtemps, 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 et puis c'est alors que, lorsqu'il a fini enfin, l'apôtre Pierre dit bon ben ça y est, maintenant il m'a loué ma barque, ça va peut-être aller mieux, je vais avoir au moins un petit peu d'argent qui va rentrer. Est-ce qu'il a pensé ça? Il pensait qu'il allait s'arrêter maintenant, et voilà que le Seigneur lui dit, avance en pleine eau. Dites avec moi, avance en pleine eau. Alléluia. Avance en pleine eau. Alléluia. Le Seigneur dit à Pierre, avance en pleine eau, Pierre, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour toi. Avance en pleine eau. Ne reste pas là sur le bord avec moi. Je monte dans ta barque et tu vas annoncer. Tu vas avancer en pleine eau. Alors, Jésus lui dit, on va avancer en pleine eau et tu vas jeter tes filets pour pêcher. Alors Simon, là, il était un peu fatigué, il s'est dit, mais Seigneur, non, ça suffit là un peu maintenant quand même. Hein. Le professionnel ici dans la barque, c'est quand même moi. Et il conteste. Et quand le Seigneur lui donne un ordre, il lui dit, maître, il l'appelle quand même maître parce qu'il le respecte comme beaucoup de chrétiens qui disent, Seigneur, Seigneur, dans leur nom, dans leur prière, je sais que tu m'as appelé, Seigneur, mais Seigneur, quand même, j'ai autre chose à faire. Je suis en train de réparer le filet de ma dispute dans ma famille. Si je viens au culte, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Laisse-moi réparer mes filets. Puis, Seigneur, maître, je t'aime, Seigneur, mais bon, là, j'ai travaillé longtemps, Seigneur. Tu nous demandes, nous, l'Église, peut-être de faire une nouvelle évangélisation, de travailler autrement, de remettre toujours encore le filet. Mais, Seigneur, ça fait 10 ans, là, on va fêter les 10 ans de l'Église. Seigneur, non, on en a fait des réunions de puissance, on sait ce que c'est.
On en a fait des cultes. Il y en a eu des délivrances. Ils reviennent toujours. On fait une délivrance. Les gens retombent dans le péché. Il y en a 7 fois plus après, comme dit la parole de Dieu. On doit recommencer. Alors, Seigneur, quand même, tu nous dis de faire une réunion de puissance. Ça va bien, mais Seigneur, quand même, Seigneur. Et on voit ici que Pierre, eh bien, c'est un serviteur de Dieu. Il est tout sincère, mais il conteste. Il conteste et il va s'expliquer même. Il va dire, Seigneur, bon, c'est pas que je veux pas. Hein. Tu me connais, je t'appelle maître, je t'appelle Seigneur. Tu es mon Dieu, tu as la priorité. Mais quand même, là, on a travaillé toute la nuit. Hein. Sans dormir. C'est fatigant de servir le Seigneur, comme on l'a vu hier soir. C'est vraiment fatigant. Là, c'est Seigneur. Alors, j'imagine comment Jésus a dû le regarder. Parce que là, on voit qu'il conteste bien. Hein. Il est bon en contestation. Il veut servir le Seigneur de tout son cœur. Il est prêt à se donner lui-même. Il est prêt à donner même ses moyens. Il est prêt à donner sa barque pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Il est prêt plutôt, je dirais pas à le donner, il est prêt à la mettre à disposition. Il est même prêt à piloter la barque puisqu'il va le faire. Et puis quand Jésus lui dit, avance en plein eau, on va aller plus loin. Je vais te demander plus maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il dit, bon, Seigneur, d'accord, mais bon, moi, j'ai quand même des années de vie chrétienne derrière moi. On ne me la fait plus. Hein. On ne me la fait plus. Pierre est un bon serviteur de Dieu. C'est un serviteur du Seigneur, plein d'amour pour le Seigneur. Mais ici, Pierre conteste. Ici, Pierre conteste. Et c'est un serviteur de Dieu qui va servir Dieu, mais il reste dans son attitude et il reste dans sa manière de servir Dieu. Deux attitudes et deux notions qui vont l'empêcher probablement de lui-même proposer au Seigneur d'aller en pleine eau. Parce que il sert le Seigneur, il est fidèle avec le Seigneur, il travaille pour le Seigneur, il compte pas les heures pour le Seigneur. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, on aimerait bien être comme Pierre. On aimerait bien mettre notre entreprise à disposition, notre famille même à disposition du Seigneur. Il donne tout à disposition du Seigneur. Il donne son temps. Il va même donner sa nuit de sommeil à disposition pour aller maintenant reprendre le travail parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une foule à enseigner. Pierre est un bon serviteur de Dieu. Mais on s'aperçoit quand même qu'une chose, c'est qu'il y a dans lui quand même un double sentiment qui est un sentiment. Le premier, c'est le sentiment de propriété. Dites avec moi le sentiment de propriété. Regardez bien, la parole de Dieu précise. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ici, on a un premier possessif, leurs filets. Puis il monta dans l'une de ces barques. Et la Bible prend la peine de préciser qui était à Simon. C'était la barque de Simon. Il monta dans l'une des voitures, c'était la voiture de Simon. Il utilisa le mari de, il y a ici vraiment un possessif qui est très important. Entre deux phrases, la Bible précise que vraiment c'était la barque de Simon. Alors on est très content parce qu'on se dit, waouh, quelle générosité, Simon il va donner du temps, etc. Mais il y a aussi autre chose qu'il veut dire, c'est que Simon probablement était un bon serviteur de Dieu, un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, mais il restait en lui quelque chose qu'il n'avait pas encore réussi à donner au Seigneur. À mon avis, c'était le sentiment de propriété. Servir le Seigneur, oui, mais c'est mon filet. Servir Dieu, oui, mais c'est ma barque. Servir le Seigneur, oui, mais c'est mon temps. Oui, mais c'est ma nuit que j'ai donnée au Seigneur. Et on voit ici que c'est quelque chose de très fort. D'ailleurs, Jésus, à cause de ce sentiment de propriété qu'il ressent dans le pasteur Pierre, eh bien, il peut pas lui dire, bon, j'ai besoin, je prends. Il peut pas dire, voilà, viens. Parce que très vite, non seulement lui, mais son entourage va réaliser qu'on peut servir Dieu, mais on sert Dieu quand même avec nos forces, et puis surtout, on sert Dieu avec nos biens. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour mettre nos biens à disposition du Seigneur, mais ça reste encore les nôtres. C'est quand même un peu normal, vous ne trouvez pas ? Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends ma maison, peut-être pensait-il, mais c'est ma maison, hein. Ici, Pierre...
Pierre, eh bien, vraiment, sert le Seigneur. Mais Jésus, il est quand même obligé de prendre des gants, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les rôles inversés. Quand on voit que c'est Jésus qui prie à Pierre, c'est quand même un peu surprenant. Est-ce que normalement, c'est pas moi, le serviteur du Seigneur, qui prie le Seigneur pour que Dieu, dans sa volonté, décide, etc. Mais quand je lis ça, je me mets à la place de Pierre, puis surtout, j'ai l'impression de me retrouver en Pierre. Je me dis, quand moi, dans ma relation avec le Seigneur, je dis que je prie le Seigneur, ou c'est le Seigneur qui est obligé de me prier pour que je puisse faire quelque chose pour lui? Ah, oh, Freddy, est-ce que tu aurais la gentillesse de bien vouloir cette fois-ci être fidèle et puis venir prier le vendredi? Parce que tu sais, si tu ne pries pas quand même, comment je vais faire, moi, pour sauver la Normandie? Oh, oui, Seigneur, je veux bien, mais... Et si je vois que vraiment c'est un serviteur de Dieu, mais purée, le Seigneur, quelle délicatesse! Il arrive avec les pas de velours, tu vois. Pierre, il me semble que peut-être éventuellement on pourrait peut-être enseigner cette foule qui se presse autour de nous. Et puis Pierre dit, mais bon sang de bonsoir, tu as mes filets à réparer. On s'est engueulé l'autre jour, ça a cassé entre nous. Il faut maintenant que tu vois, il faut que les filets, c'est le symbole des relations personnelles, c'est le symbole des relations humaines. Et combien de fois on dit, Seigneur, non, mais Seigneur, mes filets, j'ai du travail, j'ai péché. Et donc ce sentiment de propriété est tellement fort que même les associés de Simon, on ne sait même pas ici dans ce texte qu'ils sont associés, on n'en parle même pas, c'est à Simon, c'est l'entreprise de Simon. C'est lui qui est le patron, c'est lui qui a les barques, c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a cette maison et qui a ses barques. C'est lui qui a... Alors Jésus dit, écoute, j'aurais quand même un petit peu besoin de toi. Et la Bible dit que vraiment il prie Pierre et que en prenant tous les gants nécessaires, il dit, bon ben... Voilà, j'aimerais monter un peu dans ta barque. Alors Pierre, il est quand même sympa, parce qu'il accepte. Hein. Parce que moi, j'en connais qui peut-être n'accepterait pas du tout que non, Seigneur, là, j'ai pas le temps, tu viendras me voir la prochaine fois. Là, aujourd'hui, mon Dieu, oui, je sais qu'il y a la foule, mais quand même, et moi aussi, j'ai foultitude de choses à faire. Et Jésus, il est très content avec Pierre, quand même, il le prie, il lui dit... bon Pierre, puis-je, s'il te plaît, éventuellement utiliser ta barque? Quelle humilité du Seigneur qui dit à Pierre, ta barque, parce que Dieu sait que tout lui appartient, mais il va quand même être d'accord avec Pierre, il va quand même lui dire, ben oui, est-ce que je peux utiliser ta barque? Alors, il enseigne la foule et puis il avance un peu plus et à un moment donné, il dit... Mais voilà, maintenant que j'ai utilisé ta barque, que tu as la gentillesse de me permettre de travailler pour toi, j'aimerais te demander autre chose. Est-ce que, s'il te plaît, j'aimerais que tu avances un peu plus en pleine eau. Et cette fois-ci, il lui parle un peu d'une manière différente. Il parle un peu plus de manière directive. Il lui dit, avance. Et le ton de Jésus change un peu. Parce que là, il est monté dans la barque, alors il aimerait un peu, il a un projet. Moi, j'avais l'impression de me retrouver quand j'ai demandé au Seigneur de venir dans ma vie chrétienne. Au début, je pensais que ça allait être cool, qu'on allait pouvoir avoir une vie nouvelle, etc. Et puis très vite, j'ai senti le Seigneur qui m'a dit, avance pas, non, change là, Et là, Pierre, il est un peu un peu embêté, là. Il est un peu embêté, il commence même un peu à se fâcher. Et la parole de Dieu nous le dit ici, que là, très poliment, hein, mais il l'appelle quand même maître, parce que lui, Pierre, il n'était pas docteur en théologie. Jésus, lui, c'était le grand rabbin quand même, on ne parlait pas n'importe comment. Là-bas, on dit maître, hein, moi aussi, quand je parle au Seigneur, même quand je ne suis pas d'accord, je lui dis Seigneur. Je lui dis, mon Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es un feu dévorant, mais quand même, tu me fais suer là un peu. Et le titre qu'il emploie ici, dans ce texte, ne reflète pas vraiment le sentiment de respect que pourrait avoir Pierre à ce moment-là pour le Seigneur. C'est un titre, là. Hein. C'est un titre. D'ailleurs, Pierre aime bien qu'on remarque que c'est sa barque. Il aime bien qu'on le prie pour qu'il fasse les choses. Et puis, là, il dit, bah, écoute, là, Seigneur, t'es bien gentil, mais on a quand même travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et on voit ici que c'est pas vraiment une contestation méchante, c'est très poli, mais c'est quand même, il discute. Il discute avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, avance, et il discute. Il dit, d'accord, je veux bien avancer, hein, pas de problème, mais bon, il faudrait que tu me dises pourquoi. Hein, quand même, je veux bien donner du temps, mais enfin, j'aimerais savoir à quoi ça va servir. Je sais que nous, dans notre pays, on se pose jamais ce genre de questions, mais ça existe. Hein, j'ai déjà rencontré des chrétiens comme ça ailleurs. Qui comme ça, qui
servent le Seigneur de tout leur cœur, mais qui aiment bien contester un petit peu quand même. Parce que quand même, quand on conteste un peu, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, ça nous donne l'impression d'exister. Et l'apôtre Pierre est un bon serviteur du Seigneur, mais il sert Dieu avec son raisonnement, il sert Dieu avec un deuxième sentiment. Le premier, c'était le sentiment de propriété. Et le deuxième, c'est le sentiment de la compétence. Dites avec moi, le sentiment de compétence, du savoir-faire. T'inquiète pas, je m'occupe, Seigneur. Je veux bien te servir, mais Seigneur, je sais comment les choses doivent se faire. C'est quand même moi le patron pêcheur. Je sais comment les choses doivent se faire. Combien de fois nous-mêmes, on a regardé une réunion, on a regardé une campagne, on a regardé quelque chose, puis on a dit, oui, mais il faudrait que les choses soient comme ça, et puis pourquoi on ne ferait pas ça, et puis... Et j'ai l'impression, quand je lisais ça, je me voyais un peu, je me disais, tiens, est-ce que parfois, moi aussi, j'interviens pas un peu là, comme pour pouvoir dire, ben oui, les choses doivent être comme ça. Je sais, nous, ça fait quand même des années qu'on y travaille. On a quand même de la compétence, il y a une méthode, et cette méthode, il convient de la suivre. Pierre, ici, va servir le Seigneur de tout son cœur, mais il a peut-être un petit peu de religiosité, mais surtout, il a ces deux sentiments qui sont profonds en lui. C'est le sentiment de propriété. C'est quand même sa barque, c'est sa volonté, c'est lui qui décide quand il veut. C'est lui qui décide quand il les met à disposition, c'est lui qui décide si ses filets, il les prête ou pas au Seigneur, s'il les répare plus tard ou s'il les répare maintenant. Puis c'est lui qui décide aussi et qui sait où est-ce qu'il faut pêcher. D'ailleurs, il le sait parce que depuis des années, il a de l'expérience. Mais là, cette fois-ci, il se passe quelque chose, c'est qu'il a quand même été un peu humilié parce que toute la nuit, il a pêché et il n'a rien pris. Alors il est un peu énervé. Mais Pierre ici ne se rend pas compte vraiment que c'est un problème qui pourrait venir de lui. Parce que ça ne vient pas de lui ce problème-là. Il n'y peut rien, tout le monde sait qu'un jour on pêche, un jour on pêche pas, c'est pas grave. Ça fait partie du business. D'ailleurs, il y a des ratios économiques. Il y a des fois on gagne bien, des fois on gagne moins. Et puis à la fin de l'année, ça fait une balance, n'est-ce pas? Et ça fait un équilibre, c'est ce qu'on appelle le bilan. Donc lui, il était un pro dans les bilans, il ne s'inquiétait pas, mais quand même, ça l'avait un peu énervé. Alors Jésus, lui dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Alors là, Pierre, quand même, ça l'énervait un peu. Mais comme il aimait tellement le Seigneur, un peu à reculons, il aurait bien préféré faire demi-tour avec sa rame ramée à l'envers, mais il rame quand même à l'endroit. Et puis, il dit, ben Seigneur, sur ta parole, je le ferai. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable qui va transformer sa vie. C'est que Jésus, il n'était pas un professionnel de la pêche. Mais Jésus, c'est le professionnel des miracles. Amen. Et Pierre ne s'attendait pas. Pierre, il pensait qu'il allait avoir le culte de la même manière, le même rituel. Il allait sortir le matin, il allait pêcher, il allait revenir le soir. Et exceptionnellement, il y a réunion spéciale de puissance. Alors vite, on sort, on va en pleine eau un petit peu, on va repêcher encore une fois. On est un peu plus fatigué parce qu'on va sortir deux fois la pêche au lieu de sortir qu'une fois ce week-end, n'est-ce pas? Mais voilà que le Seigneur fait quelque chose. Il dit, vas-y, jette un peu les filets qui sont ici. Et alors là, ça l'énerve encore plus, parce qu'il dit, mais ici, il n'y a jamais eu de pêche depuis toujours. En plus, c'est en plein soleil, comment veux-tu que les poissons soient là? C'est quand même réel. Et puis Jésus dit, mais bon, sur ta parole. Alors j'imagine, Pierre, il était là, il discute, puis il regarde les autres copains. Allez, le curé là-bas, le curton, on va voir ce qu'il va nous dire maintenant, hein, parce que qu'est-ce que ça va faire? On va s'amuser, on va faire des grillades. Peut-être qu'il avait même pris des petites sardines pour faire des grillades. Il s'est dit, bon, ben, au moins, on n'aura pas tout perdu. Il commence à beurrer sa tartine. Et puis, soudainement, ça commence à bouger dans tous les sens. Et puis, ça frétille. Et puis, oh, il a failli se planter. Oups, il a dû s'attraper à la barque. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, vite, il a dû faire venir le treuil. Mais il commence à tirer avec ses... Viens, viens, viens. Et puis, soudainement, il s'aperçoit que même tout seul, il n'arrivera pas. Alors, pour la première fois, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et là-bas, il y avait une autre barque. Viens ici un petit peu. Alors, les autres, ils arrivent quoi? À manger? L'Afrique? Tu vas gagner beaucoup d'argent. Alors, les autres, comme Astérix, vous savez, hein, Astérix, les galères, là. Ils arrivent et tu dis, comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, tire un peu. Ils arrivent à tirer aussi. Ça y va comme ça. Moi, j'arrive pas à comprendre comment, dans des filets cassés qui sont même pas finis encore de réparer, ils arrivent encore à faire ça. Il y a des poissons qui s'échappent, mais ça revient dedans et puis ça repart. Et puis finalement, ils arrivent à remplir une barque difficilement. Et puis la deuxième barque, ils sont crevés. Ils sont là, ils disent, oh non, qu'est-ce qui arrive? Et puis là, Pierre se met devant le Seigneur. Et la Bible dit que là, cette fois-ci, il a flippé. La Bible dit que Pierre, soudainement, il est saisi d'épouvante. Dites avec moi l'épouvante. C'est pas parce qu'ils avaient cru que Jésus était un fantôme dans l'eau comme l'autre fois. Mais l'épouvante, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie à un moment donné qui va faire de Pierre un pasteur qui sert Dieu de tout son cœur et puis qui va le transformer en un pasteur qui sert selon Dieu. De celui qui sert Dieu avec toute sa sincérité, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, mais de celui qui sert Dieu avec la force du Seigneur. Il y a quelque chose de différent. C'est que pour la première fois, peut-être, Pierre n'a moins contesté. Au début, il râlait. Au début, il avait ce double sentiment. La propriété, c'est ma barque et puis c'est ma compétence. Mais très vite, dans son, il s'est aperçu que même avec toutes ses compétences, même avec sa barque, même avec ses moyens, il pouvait encore passer par des nuits blanches. Il pouvait passer encore par des pêches qui n'avaient rien rapporté. Et là, déjà, ça avait commencé à l'humilier un petit peu. Mais quand le Seigneur lui dit... Et que grâce à l'obéissance de Pierre, moi j'admire quand même Pierre de l'obéissance qu'il a eue quand même, parce que franchement, à sa place, je ne sais pas si j'aurais pas dit au Seigneur, écoute, hein, toi va t'occuper de la théologie, puis laisse-moi faire. Il a jeté des filets, et la Bible dit, il est saisi d'épouvante. D'épouvante, dites avec moi, d'épouvante. Vous savez ce que c'est cette épouvante que Pierre va ressentir à un moment donné? C'est l'humiliation, dites avec moi le mot humiliation. Encore une fois, Pierre est humilié là cette fois-ci. Il est humilié parce qu'il va arriver après. Et puis, tout le monde va dire, ah, mais c'est pas toi qui a su faire mieux que moi, c'est Jésus qui t'a fait. Il va peut-être perdre sa réputation, peut-être même, il a failli perdre son bateau parce qu'ils ont failli couler tellement il y a eu de poissons. Mais Pierre, il ne regarde même plus à ça. Soudainement, il est comme brisé à l'intérieur de lui. Il se dit, mais je ne suis qu'un pêcheur, mais je ne sais rien. Je m'aperçois tellement de ma faiblesse. J'ai voulu servir Dieu avec ma force, j'ai toujours contesté. Je croyais qu'en faisant la réunion de cette manière, en formant comme ça les pêcheurs de cette manière, en fixant les filets de cette manière, j'allais avoir plus de poissons. Mais en réalité, même avec des filets troués, ce Jésus-là, il arrive en pleine journée, en plein soleil de Galilée, il arrive à tirer le filet n'importe où et c'est rempli de filets, de poissons. Imaginez là, Pierre, toute sa théologie a commencé à tomber. Toute sa compétence chrétienne, il s'est dit, mais je ne sais rien. Je ne puis rien, je n'arrive à rien. Puis la Bible dit qu'ils prirent tellement une grande quantité de poissons que leur filet se cassait. Et Pierre, quand il vit cela, il tomba aux genoux de Jésus. Il tomba aux genoux de Jésus. Et là, il y a une attitude différente de Pierre. C'est la première fois dans son ministère où Pierre va avoir une attitude différente. Avant, quand Jésus lui parle, il l'appelle maître, mais on voit bien qu'il le conteste. S'il le conteste, ça veut dire qu'il n'est pas soumis, il n'est pas mis sous le Seigneur. Et puis, les choses sont très bien claires, c'est les choses à lui, il les met à disposition du Seigneur, mais c'est pas quelque chose qui est complètement donné. C'est lui qui décide quand même. Tandis que là, pour la première fois, on voit le pasteur Simon Pierre qui tombe aux genoux du Seigneur. Mais il ne dit pas au Seigneur, « Seigneur, je reconnais ma faute, il a peur. » Il dit, « Retire-toi de moi, c'est trop pour moi. » Parce que là, faire ce genre de choses, aller en pleine eau, en plein soleil, aller à l'inconnu comme ça, jeter nos filets, perdre, quitte à les perdre parce qu'ils étaient déjà en lambeaux. Commencer à risquer la risée de tous ces gens qui savent bien qu'à cette heure-là, on ne part pas à la pêche. Et puis, remettre en cause mes compétences, moi qui ai tellement d'expérience. Comme ça, l'apôtre Pierre, ça a été difficile pour lui à ce moment-là. Il n'était pas encore apôtre, mais là, il était à l'école. Et puis, il apprenait la foi, mais c'est quelque chose dans sa relation avec Dieu qui l'a comme brisé d'un coup. Brisé d'un coup et il s'est rendu compte que finalement il ne savait rien, il n'avait rien, il n'était rien, mais que celui qui était dans la barque, lui, était tout pour lui. Pour la première fois, il va faire un geste qui va faire de lui un pasteur, le pasteur qu'on connaît, un pasteur incroyable, extraordinaire, d'une puissance merveilleuse. Il va plier le genou devant le Seigneur. Mais la Bible dit qu'il est saisi d'épouvante. Au début, il dit, retire-toi de moi. Mais très vite, il est là et il est en admiration devant le Seigneur. Et soudainement, il a une révélation extraordinaire sur sa propre vie qu'il n'avait plus depuis longtemps. Parce que lui, il avait accepté Jésus comme son Seigneur. Maintenant, il était même consacré dans le ministère. Mais il y avait quelque chose dans sa relation avec Dieu. Il servait Dieu par habitude. Il servait Dieu par consécration. Il servait Dieu par obéissance. Il servait bien le Seigneur. Dites avec moi, il servait bien le Seigneur. Mais il avait peut-être oublié qu'il était encore cet homme pécheur. Il n'était plus petit devant ses yeux. L'épreuve qu'il n'avait pas cette humilité, cet humus. L'humilité, c'est le mot humus en araméen, tel qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament, qui dit tu es humus, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est le même mot qui dit qu'à moins que l'homme ne revienne à l'humilité, à moins que l'homme ne revienne à être brisé dans son image propre, à être brisé de l'importance qu'il a à ses propres yeux, n'est-ce pas ? Eh bien, Dieu ne peut pas mettre le souffle en lui. Le souffle de Dieu a fait de Adam un être vivifiant à partir du moment donné où Dieu a pu prendre cette terre, cette poussière, et il a pu la modeler selon sa volonté. C'est alors que par son souffle, il est devenu un être vivant. Et ici, Pierre, eh bien, il va être un ministère qui sert Dieu de tout son cœur. Mais là, il va devenir un ministère spirituel. Ça veut dire le spirituel, c'est-à-dire l'esprit. Dans le mot grec, c'est le pneuma qui va être insufflé dans son ministère. Et il va servir le Seigneur, non plus seulement par la vue, non plus par les moyens, non plus par ses compétences de la connaissance, non plus parce qu'il avait une licence en pêche de haute mer, non pas parce qu'il avait tous les permis, mais il va servir le Seigneur parce qu'il va être insufflé, dites avec moi, insufflé de la puissance du Seigneur d'en haut, et ça va changer radicalement sa manière de voir le ministère. Mais Pierre est terrorisé, il est épouvanté, parce qu'il s'est dit que tout ce qu'il avait fait depuis toutes ces années, c'était pas vraiment juste. Tout ce qu'il avait obtenu depuis toutes ces années, il s'est aperçu que ça servait pas à grand chose. Il est interpellé, il est épouvanté, dit le Seigneur. Alors au début, comme chacun de nous, il dirait, Seigneur, retire-toi de moi, c'est trop, j'arriverai pas. Seigneur, ce que tu me demandes là, ça m'a surpris. Mais la pêche miraculeuse, c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur travaille selon sa volonté, alléluia. Et si Pierre avait résisté, n'avait pas persévéré à la pêche malgré la défaite, malgré le fait que les filets s'étaient rompus, qu'ils s'étaient disputés dans la barque, et puis... Eh bien, jamais il n'aurait vécu cette chose-là. Alors, il se passe quelque chose. Cet homme qui est brisé, cet homme qui est épouvanté par le Seigneur, mais une épouvante, est un homme humilié. Dites avec moi, humilié. Mais vous savez, de cette humiliation de Dieu, l'humiliation du mal et du malin, elle nous rejette, elle nous casse, elle nous méprise. Mais l'humiliation, selon Dieu, elle nous aide à mourir à nous-mêmes pour laisser Dieu nous insuffler sa vision. Nous insuffler sa manière de faire, nous insuffler une nouvelle vérité biblique. Et cette humiliation, elle est bonne devant Dieu parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et on voit bien que le pasteur Pierre, il est un peu orgueilleux quand même, hein, parce que pour oser contester comme ça le Seigneur, quand on lui demande quelque chose, il faut le faire. Combien de fois, moi, je me retrouve en lui, je dis, mais moi, si mon pasteur me demande, est-ce que je vais contester ? Oui, mais tu comprends pas, j'ai aussi autre chose à faire. Ou... Comment vais-je réagir avec le Seigneur ? Et puis, le sentiment de propriété est très fort aussi. Alors, la Bible dit que même Zébédée et Jacques et Jean, et eux aussi, ils ont été pris par l'épouvante, ils ont eu peur. Quelque chose s'est changé, ils se sont dit, mais là, on a la trouille parce qu'on a quelqu'un en face de nous avec qui on ne peut pas réagir comme d'habitude. Et pour la première fois, la parole de Dieu va employer le mot de associer. Regardez au verset 10, la Bible dit les associés de Simon. Tiens, c'est bizarre, avant on parle jamais de cela parce qu'on voit que le pasteur Simon, on voit que sa barque. La Bible précise, c'est sa barque, c'est lui le patron. Mais là, pour la première fois, eh bien, il y a une association qui crée. Parce que l'apôtre Pierre, ici, s'est rendu compte qu'il n'aurait jamais pu gagner, il n'aurait jamais pu faire croître sa récolte s'il n'avait pas eu l'aide des autres. Et c'est seulement quand le Seigneur est intervenu dans son programme, dans sa manière de faire, lorsque le Seigneur l'a dépassé, dites avec moi, dépassé. C'est quand le Seigneur l'a dépassé qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin des autres. Pour la première fois, il a appelé les autres, « Hé, j'en ai trop pour moi, je partage avec vous. » Alors qu'avant, on ne voyait pas qu'il partageait, c'était certainement l'actionnaire majoritaire. Il parlait même pas de ses autres associés. Il a seulement fallu bien longtemps après pour que ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de propriété disparaisse de sa vie, disparaisse. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à appeler les autres. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il commence à les reconnaître dans ce qu'ils sont. Et pour la première fois, il les appelle les associés. C'est-à-dire que le pasteur Pierre va changer dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter avec les autres. Soudainement, il ne va plus voir même son ministère, même sa pêche comme un moyen, lui, de pouvoir devenir quelqu'un socialement. Mais il va savoir une chose, c'est que le seul but, c'est de ramasser tous ces poissons qui se perdent dans l'océan de leur perdition. Alors il comprend qu'il va s'associer, alors il devient plus humble, alors il va combattre et ce sentiment de propriété soudainement va disparaître, tout comme ce sentiment de savoir-faire. Moi je sais faire, je sais comment faire, je sais comment organiser. Combien de fois quand nous devons organiser, nous pensons, nous nous organisons au maximum que nous pouvons faire, mais nous ne devons pas nous poser la question, dire Seigneur, tu me dis d'avancer en pleine eau, je vais faire mon maximum à ta parole, je jetterai les filets, mais... Attention, Dieu va vous surprendre peut-être. Il va vous surprendre peut-être au moment où vous ne les attendez plus. Il y a des crises noires qui nous font du bien dans la vie. Il y a des pêches à vide. Il y a des moments de grande de terreur. Il y a des moments de fatigue qui nous font du bien. Il y a des moments donnés où le Seigneur a besoin de nous laisser un petit peu de temps pour voir si on va faire son œuvre ou son entreprise ou notre famille ou notre couple. Dites avec moi, notre couple. Avec notre manière, ou si on va dire, Seigneur, je veux avancer en pleine eau, puisque tu me le dis. Comment est-ce qu'on va réagir lorsque le Seigneur nous dit quelque chose? Ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus, qui voit l'épouvante de ses disciples, lui dit, ne crains point. Dites avec moi, ne crains point. Et il lui donne une nouvelle mission spirituelle, il lui donne un nouveau nom. Il lui dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et on connaît bien ce texte, mais dans ce contexte, ça veut dire quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que Pierre avait besoin d'être reconnu. C'est pourquoi Jésus, ici, il emploie l'auxiliaire, être, tu seras. Mais il ne l'emploie pas dans le présent, il lui donne comme un objectif de vie. Il lui donne comme un objectif de ministère. C'est que l'important, ce n'est pas d'obtenir des choses. L'important, ce n'est pas la carrière. L'important, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Que Dieu va lui donner toutes ces choses. L'important n'est pas d'être reconnu dans le ministère. Mais Dieu lui montre que maintenant, c'est par sa puissance, c'est par son nom seulement qu'on peut réussir notre vie. Alléluia. Et que pour cela, notre business à nous, c'est d'avoir des associés. C'est d'être humble. C'est d'être brisé. C'est d'être épouvanté par la puissance du Seigneur. Et pourquoi on est épouvanté par la puissance du Seigneur? C'est parce qu'on la compare à notre petitesse. Tu n'es épouvanté de toi-même que lorsque tu réalises que tu es pécheur. Tu n'es épouvanté de ta faiblesse que si tu réalises que tu es faible. Et que tu réalises que quelqu'un d'autre est fort. Tu es épouvanté de ton incapacité de même de lever une œuvre dans ce pays. Quand tu la réalises que malgré tous les efforts que tu peux faire, ça n'y change rien. Sauf si le Seigneur entre dans la barque et que lui dise maintenant. Alléluia. Ça va changer. Le pasteur Pierre va être différent. Il va comprendre. Le pasteur Pierre, soudainement, va se dire, mais Seigneur, je vais passer tout mon temps, pourquoi faire? Pour contrôler quoi? Qu'est-ce qu'on contrôle dans la vie? Pour diriger quoi? Qu'est-ce qu'on dirige dans la vie? Pour quel objectif? Et puis pour posséder quoi? Oui, Seigneur, je voulais une maison, tu me l'as redemandé, puis je voulais pas, moi je donne là comme ça en fonction de ce que j'ai, mais là tu me demandes de jeter les filets, Seigneur, mais... Et Pierre, là, il a compris une chose, c'est que c'est le Seigneur le maître de la pêche. Le Seigneur, s'il ne voulait pas qu'il y ait une pêche miraculeuse, il n'y aurait pas eu de pêche miraculeuse. Il pouvait montrer toute sa force. Mais il y a deux choses dans l'église du pasteur Pierre, dans sa barque, qui existaient. C'était ce sentiment de propriété et ce sentiment de savoir-faire, de compétence. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup médité sur ce texte. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Pierre? Mais je crois une chose, c'est que les épreuves de la vie, les épreuves que nous pouvons vivre, les temps, les délais, les résistances que nous rencontrons, plutôt que de nous battre ou de souffrir et de dire « Mais Seigneur, non, ça ne va pas, on a pêché toute la nuit sans rien amener », plutôt que d'être défaitiste ou plutôt que d'être dans une attitude de fatalisme, de fatalité, peut-être nous pouvons apprendre à l'exemple du pasteur Pierre, de dire « Seigneur, je sais déjà,
mon couple, ça changera jamais. Mon mari, il sera toujours pareil. Ma femme, qu'est-ce qui a réussi à changer une femme depuis 6000 ans d'humanité? Sur ta parole, Seigneur, je jetterai mes filets. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, pour la première fois, la Bible nous dit, ayant ramené les barques à terre. Vous voyez encore le possessif, là, dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il dit, ayant ramené ses barques? Est-ce que la Bible, comme au verset, 7 versets avant, 8 versets avant, il dit, ayant ramené la barque, virgule, la barque de Simon? Vous voyez cela dans la parole de Dieu? Soudainement, c'est évaporé. Soudainement, tout le possessif, le sentiment de propriété ici a disparu. Et puis, il le ramène à terre. C'est-à-dire qu'il va mettre sa propre compétence. Il va mettre sa propriété. Il va mettre son bien. Il va mettre sa richesse. Il va mettre sa culture. Il va mettre son diplôme. Au lieu de le mettre en pleine mer, là où ça devait marcher, dans toute sa compétence, il va le ramener à terre. Il va l'attacher. C'est-à-dire qu'il va le soumettre à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et soudainement, il ne considère plus que c'est sa barque, que c'est sa compétence, que c'est lui le grand, qu'il sait encore faire et puis qu'il a réussi et qu'il sait réparer le filet. Il a oublié tout sentiment de propriété. Il a oublié tout sentiment de savoir-faire car il a été humilié par la puissance de Dieu. Alléluia. Il a réussi à se laisser épouvanter. Il a réussi à se laisser encore épater. Dites avec moi, épater par le Seigneur. Quand Dieu a fait une pêche miraculeuse, il n'a pas dit, ouais, bon, ben, merci. C'est pas mal, la prochaine fois je viendrai pêcher là, merci du filon, tiens je te file ma com. Il n'est pas resté blasé, il est resté naturel, il est resté comme un petit enfant qui était encore là, ébahi devant le Seigneur. Et soudainement il est arrêté d'être grand ses propres yeux et il a dit, Seigneur je me soumets à toi. Il s'est humilié, l'humilité et l'humiliation dans la vie sont souvent les plus grands amis que nous puissions avoir. Et pourtant c'est les sentiments d'épouvante que nous ressentons aussi. Personne n'aime être humilié en public. Personne n'aime se tromper. Personne n'aime recevoir un 2 sur 20 publiquement alors qu'un autre a reçu 19 sur 20. Mais pourtant, les 2 sur 20 sont parfois ceux qui vont nous permettre de déclencher un avenir meilleur. Alléluia. Alors ici, il ramène son sentiment de propriété. Il ramène ses biens, il ramène son argent, il ramène ses compétences. Il ramène ce « je sais comment doit être la barque, je sais comment doit être l'église, je sais comment doit être une famille. Ça devrait être ci, ça devrait être ça. » Il le laisse tomber parce qu'il est épouvanté, parce qu'il sait que lui-même, un jour, qui croyait pouvoir faire la leçon au Seigneur même, il a été humilié parce que c'est le Seigneur qui a glorifié son nom, c'est lui qui fait tout. Tout est don et grâce de Dieu. Amen. Dites-le avec moi. Tout est don et grâce de Dieu. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, mon frère, ma sœur. Tu peux essayer ton couple de toute ta force que tu veux. Tu peux essayer d'avoir de l'argent avec toutes les commissions que tu veux. Tu peux tout essayer. Tu peux dire, Seigneur, je vais investir, je vais garder pour moi, puis je te donnerai la dîme. Un jour, un homme m'a dit, il s'est converti, il m'a dit, désormais, je serai la pompe à fric de l'Église. Il était sincère, il a été généreux au début de sa vie chrétienne, il donnait beaucoup d'argent. Et puis, mais aujourd'hui, avec les années qui sont passées, ça fait plusieurs années maintenant, je me dis, mais cette parole qui était une parole qui montrait une volonté de servir Dieu était empreinte d'orgueil. Je serai, moi, la pompe qui donnera l'Afrique pour le fric pour l'Église. Cette personne aujourd'hui est ruinée parce qu'elle n'a pas su administrer les richesses et les biens que Dieu lui a donnés, parce qu'il y avait, même dans sa volonté de donner beaucoup d'argent au Seigneur, ce qui était nécessaire, parce qu'on ne construit pas le royaume de Dieu sans argent, comme on ne construit pas une famille sans argent, ça coûte très cher, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, il a tout perdu, parce qu'il n'a pas pu un jour fléchir le genou devant Dieu. Et je termine ce message, cette interpellation du Seigneur, par la parole de Dieu qui dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. On pourrait aller plus loin parce qu'on voit bien que Jésus plus tard va leur faire reprendre la même barque parce que plusieurs fois il devait faire la traversée, donc il aura encore besoin. Mais pour Pierre, c'est plus sa barque, c'est plus lui le patron, c'est plus lui le grand pasteur et les autres c'est des ouvriers, c'est des associés désormais. Il regarde les autres barques, les autres églises comme des compléments d'objets directs à lui. Il n'est plus dans la compétition du clergé ou de la compétition. Il ne regarde plus les entreprises comme devant toujours être là. Dieu a brisé le sentiment de propriété dans sa vie, tout comme il a brisé le sentiment du savoir-faire. Dites avec moi, le sentiment de propriété et le sentiment du savoir-faire. Je sais, je suis.
Combien de fois on dit je suis? On dit toujours qu'on le dit pas souvent, hein? Mais regardons une fois, amusons-nous, demandons à notre femme, par exemple, de nous dire combien de fois dans la journée on a dit je suis. On lui donne le carnet nous-mêmes. Je crois qu'on serait étonné. Mais même ce moindre petit je suis, l'orgueil qui peut rester entre nous, ce sentiment de propriété qui nous attache à cette terre, qui nous attache à l'orgueil, qui nous attache au conflit, qui nous attache au filet cassé, qui nous attache à une barque simplement, qui nous limite dans notre vision, ce sentiment de compétence, il faut même aussi savoir le donner au Seigneur. Alléluia! Car si on le donne au Seigneur, alors lui, il va s'associer lui-même avec nous pour augmenter nos compétences. Et nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires. Nous l'avons vu l'année dernière, au moment où nous étions les plus faibles, c'est là où le Seigneur a rempli le filet du zénith. Alléluia! Et on était là, on pleurait, et on était humiliés. Et ce jour-là, j'étais humilié devant Dieu, parce que je n'avais pas l'impression d'avoir réussi un grand coup et de dire « Ah, ça y est, on a réussi le zénith ». J'étais à genoux sur l'estrade et je pleurais. Je dis « Seigneur, tel que tu es tellement grand. Qui aurait pu faire ça? Qui aurait pu faire ça? Les plus grands pasteurs de France me téléphonaient toutes les semaines pour me dire « Tu dois arrêter cela. » Il y en a même des prophètes qui m'ont dit « On a reçu de Dieu que tu dois arrêter cela. » Parce que tu vas ruiner, tu seras un contre-témoignage pour l'évangile. Et comment vas-tu payer, etc. Je dis « Je vais payer avec ma maison. » Mais il me dit « Mais ta maison, elle ne suffira pas à payer ça. » Voilà ce qu'on m'a dit. Alors vous pensez bien que quand le Seigneur nous a dit « Aller en pleine eau », et qu'on a vu ça, c'est le Seigneur. Tant qu'on se compare encore à l'autre, il a une nouvelle voiture, et puis on regarde, on dit, purée, lui, où est-ce qu'il met son argent? C'est qu'on a encore un sentiment de propriété quand on ne peut pas se réjouir que l'autre a réussi mieux que nous une prière, ou mieux que nous une compétence, ou mieux que nous quelque chose. C'est qu'on sert le Seigneur peut-être comme Pierre au début, avec ce sentiment de, Seigneur, je veux bien tout te donner, mais quand même c'est moi qui contrôle. Puissions-nous être épouvantés par le Seigneur, épouvantés de notre petitesse. Puissions-nous, même si on a peur de ce sentiment d'humiliation, le reconnaître comme une manifestation la plus ultime de l'amour de Dieu pour nous. Et je peux vous dire que je crois que Dieu m'a beaucoup humilié dans ma vie. Et je crois qu'il va m'humilier encore beaucoup. Et j'espère qu'il va m'humilier encore beaucoup. J'espère que nous arriverons à servir le Seigneur sans ces doubles sentiments. Et que, comme l'apôtre Pierre, nous puissions dire à partir de ce moment-là, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Quelle est la différence entre une vie qui suit le Seigneur et une vie qui a la traîne derrière le Seigneur? Ou qui voudrait que le Seigneur le suive? Quelle est la différence dans nos prières? Quelle est la différence dans notre attitude avec le Seigneur? Alors, je crois que si on sert Dieu avec sa force, laissons-le faire les miracles. Alléluia. N'oubliez jamais que l'homme regarde toujours à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quand vous allez dans les pastorales, vous ne savez pas parce que vous n'y allez pas. Les pasteurs se saluent toujours. Bonjour frère, comment tu vas? Ça va? Bonjour ma sœur. Vous avez combien de personnes dans votre église? Vous avez fait combien de baptêmes? C'est ça? Ah, je suis pasteur de telle église. Ah, vous êtes combien de membres? Mais c'est pareil dans le business. Ah, je suis dans le e-commerce. Ah, c'est bien. Et donc, vous pesez combien? Vous valez combien? Pierre, au début, il dit, ben moi, j'ai une société, j'ai des associés, je suis majoritaire, je suis un professionnel, j'ai des barques, c'est ma barque, c'est écrit barque de Simon, la Bible précise. Jésus me prie de pouvoir l'utiliser, même le Dieu des cieux me prie de pouvoir le servir. Quelle importance de grandeur! Mais quand il a réussi, quand Dieu l'a épouvanté, c'est à ce moment-là que Pierre dit, à partir de ce moment-là, il laissa. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout lui reprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus eu de barque après, parce qu'il a été très béni, Pierre est devenu très riche. Après, il était un grand apôtre. Les gens amenaient le produit, les hommes d'affaires et les rentiers amenaient le produit de la vente de leurs champs à ses pieds. Et s'ils étaient bibliques, alors normalement la dîme revenait aux apôtres. Ce qui veut dire que selon la parole de Dieu, les apôtres avaient autorité pour prélever la dîme pour leur bien et aussi pour pouvoir exercer le ministère. Donc Dieu a beaucoup enrichi l'apôtre Pierre. Dieu a beaucoup béni l'apôtre Pierre. Mais Pierre ne regardait plus ça comme sa propriété.
Et jamais il ne pouvait dire désormais « je suis ». Parce qu'il avait enlevé le moindre iota de l'orgueil, le petit « i ». Vous savez, en hébreu, le « i », dans la lettre, le « i », c'est la plus petite lettre, c'est un petit comme ça, claque. Alors si vous enlevez le « i » à « je suis », dites-le, dites avec moi « je suis ». Enlever le « i », ça fait quoi ? Jésus. Jésus. Amen. Puissions-nous aimer d'être humiliés par le Seigneur. Puissions-nous le servir par sa force. Et vous savez, j'aimerais que je vous dise une chose. Si nous devions être 10 dans l'église, et si nous devions être 10 000, ça changerait quelque chose? Le pasteur Alexandre sera-t-il un meilleur pasteur s'il a 10 000 ou s'il a 10? Vous serez un meilleur leader dans quelles conditions? Vous êtes un meilleur businessman parce que vous avez 10 000 ou parce que vous avez 10 millions? Aux yeux du monde, celui qui a 10 millions est meilleur. Mais pas aux yeux de Dieu. Ça dépend comment ce qu'ils valent, comment ils ont été acquis et comment ils sont redonnés. Amen. Alors, servons Dieu avec sa force. Puissions-nous être encore épouvantés du Seigneur, épouvantés de notre petitesse, de notre manque de savoir. Et que dans cette église, nous soyons plus connus par notre sentiment du don de nous que par le sentiment de propriété. Que nous soyons plus mus ensemble par des relations d'humilité. Dites avec moi, d'humilité. Comme dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, je veux que chacun regarde l'autre comme étant supérieur à lui. Puissions-nous ne pas avoir cet esprit de compétition, de comparaison qui habite l'être humain et qui a habité jadis notre Église, sans qu'on s'en rende compte parfois. Puissions-nous servir en toute humilité, être épouvantés de notre péché. Et comme l'apôtre Pierre, malgré des années de conversion. Hein, Anne-Marie, t'as combien d'années de conversion? 20 ans de conversion? 24 ans de conversion, Anne-Marie, que tu puisses encore venir devant Dieu, que je puisse venir encore devant Dieu, en étant épouvanté de tel point que nous sommes si petits, si pécheurs, et que tout est don et grâce de Dieu. Un homme, une femme peut tout perdre en un jour. Un couple peut tomber en déliquescence en quelques heures. Il suffit de croire et de laisser prise à certaines pensées, et ça suffit. Une église qui pensait fonctionner merveilleusement peut s'arrêter du jour au lendemain. Si ce n'est par la grâce de Dieu, une entreprise aussi, une maison dont on pensait avoir le fruit, si elle est mal gérée après, si elle n'est pas reconsacrée au Seigneur tout de suite, devient une occasion de chute et de retomber dans le péché. J'ai connu des gens qui avaient eu des héritages, des maisons, des gens qui même avaient eu, ils étaient arrivés ici, ils ont eu ensuite du travail alors qu'ils étaient au chômage et puis maintenant ils sont à l'extérieur, ils ne viennent plus et ils sont en train, cette même bénédiction parce qu'ils n'ont pas perdu l'esprit de la notion de compétence et la notion de propriété sont des gens qui sont en train de se perdre. Et je crois que Pierre aurait eu un mauvais ministère s'il avait continué à toujours se comparer aux autres, à avoir ce sentiment de propriété. Et je me sens humilié de dire Seigneur, quand je dis prends tout Seigneur, quand je dis Seigneur les choses t'appartiennent, quand je dis Seigneur c'est à toi, le dis-je de la bouche ou le dis-je parce que je suis épouvanté, parce que je suis humilié de savoir que je ne suis rien. Amen. Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour que Jésus soit grand. Il faut que nous diminuions pour qu'il grandisse. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.